CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende, le podcast. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès mais surtout auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors Sylvain, souvent quand on pense à création et démocratisation de l'automobile, on pense plutôt à la France, à l'Allemagne ou aux États-Unis. Pourtant, l'Italie est aussi un des pays précurseurs dans le domaine et de nos jours, les marques italiennes sont souvent synonymes de qualité ou de luxe. Alors on va découvrir un peu l'histoire automobile italienne avec un célèbre duel, le duel entre Lamborghini et Ferrari.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Enzo Ferrari est né en 1898 à Modène.
Oui, en effet, il naît dans le centre de l'Italie, à Modène, une petite ville de l'Émilie-Romagne. Donc c'est le fils d'un petit industriel de la région qui faisait des poutres métalliques. Et donc le père d'Enzo Ferrari avait la particularité d'aimer l'automobile. Donc l'automobile était naissant hein, à cette époque. Et vu qu'il aimait l'automobile et qu'il avait des ouvriers, un peu de matériel, il s'est mis à les réparer et en fait, il a développé une activité de garage automobile. Donc, disons qu'Enzo Ferrari a, dès l'enfance, baigné un petit peu dans l'environnement de l'automobile. Et après avoir vu une course automobile quand il avait à peu près 10 ans, il s'est dit « c'est génial l'automobile, c'est ça que je veux faire ».
Mais pas tellement de mécanique, lui, ce qu'il voulait faire, c'est plutôt être pilote de course.
Oui, voilà, c'est l'époque où tout le monde rêvait d'être soit pilote d'avion, soit pilote de course. Et lui, son rêve, c'est de devenir pilote de course. Et donc, il va s'orienter dans cette direction-là.
Et il faut savoir qu'avant ça, il voulait plutôt faire du journalisme ou de l'opéra, mais c'est vraiment un peu la fièvre qui a été communiquée par son père.
Oui, alors il a un peu hésité longtemps. C'est vrai qu'à un temps, bon, il avait pensé au journalisme, chanteur d'opéra. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est un peu comme les enfants, on veut être pompier ou militaire ou je ne sais quoi. Mais assez vite, il va s'orienter donc vers l'automobile, notamment la course automobile. Donc avec la Première Guerre mondiale qui va arriver à ce moment-là
rapidement,
et qui évidemment va mettre un terme, ou en tout cas un frein à ses ambitions, puisque donc son père et son grand frère sont mobilisés dans un premier temps. Il meurt de maladie à la guerre. Lui est mobilisé en 1917, donc il attrape ce qu'on appelait à l'époque la grippe espagnole. Il manque de peu mourir, mais bon, il parvient à se soigner. Et donc quand la guerre se termine, bah, l'entreprise familiale, elle a périclité. Il y a plus déjà l'économie est en lambeaux, donc il y a plus beaucoup de commandes. Son père n'est plus là pour la diriger. Donc c'est une situation financière, professionnelle qui est en fait assez précaire.
Il faut savoir qu'après la guerre, son avenir à lui, il est complètement incertain et il décide de partir pour Turin.
Oui, donc il ne sait plus trop quoi faire. Bon, un temps, son père avait ambitionné pour lui qu'il reprenne l'entreprise, mais il n'y a plus vraiment d'entreprise à reprendre. Et donc, il part pour Turin, qui est le berceau de l'automobile italien. C'est les Fiat, qui avait été créé par Agnelli quelques années plus tôt. Et il se dit, puisque j'aime l'automobile, je vais aller trouver du travail chez Fiat.
Il est allé frapper à la porte de Fiat.
Donc ça n'a pas marché. Et il a trouvé de l'embauche chez notre petit constructeur, CMN, aujourd'hui totalement disparu et oublié.
Et donc, là, il a trouvé, grâce à sa passion un peu pour la mécanique, parce qu'il s'est fait des copains et qu'ils l'ont fait rentrer.
Disons que l'automobile, à l'époque, c'était un petit milieu. Lui baignait un petit peu là-dedans de par sa passion et la passion de son père. Et donc, un peu par réseautage, il trouve un petit emploi de livreur, mécanicien. Enfin, il fait différentes tâches et il devient conducteur, puis ensuite pilote. Donc, pour cette entreprise.
Oui, parce qu'il a toujours au fond de lui, quand même, l'envie de faire des courses automobiles.
Voilà, donc disons que son travail de mécanicien ou de conducteur, c'est un métier, on va dire, un petit peu alimentaire. Mais à l'époque encore, sa passion, c'est la course automobile. Il rêve toujours d'une carrière de pilote. Et donc, avec ce qui lui reste d'héritage de l'entreprise de son père, il achète une Alfa Romeo, voilà, qui est à l'époque la voiture, on va dire la Ferrari d'aujourd'hui, hein, la voiture un peu emblématique. Et il devient donc pilote pour Alfa Romeo donc dans les années 1920.
Il est d'abord pilote d'essai, puis pilote de course, et commence donc du coup à enchaîner des courses. Est-ce que ça marche ?
ça marche moyennement. On va dire que c'est un pilote honorable, de bon niveau, mais ce n'est pas non plus le pilote qui va le plus prometteur. Et surtout, il faut bien avoir en tête que la course, c'est toujours très dangereux, mais ça l'était encore plus à l'époque où il y avait beaucoup moins de consignes de sécurité et des voitures beaucoup moins sûres. Et donc... C'est, on va dire, ce risque qu'implique l'activité de pilote le fait un peu réfléchir sur son avenir professionnel aussi.
Il a les premières victoires en 1923, il en enchaîne en 1924. Il va commencer à faire un peu des relations dans le monde des courses automobiles.
Oui, et il va notamment rencontrer les comtes donc Baracca, qui était une famille noble italienne, qui avait un fils pilote, donc pilote pour le coup d'avion, hein, pendant la Première Guerre mondiale.
Un pilote reconnu.
Voilà, un peu un as de l'air, disons, qui était un peu une figure emblématique de la guerre, qui avait fini par être abattu par les avions ennemis et tué. Et sur son avion, il avait comme emblème un cheval, disons, cabré, hein, comme on dit en italien, cavallino rampante. Et les comtes donc Baracca, qui sympathisent avec Enzo Ferrari, vont l'autoriser à reprendre cet emblème. Et donc, c'est de là que vient le célèbre emblème du cheval cabré de Ferrari. Et lui rajoute le jaune sur le fond du logo, le jaune en symbole de la ville de Modène. Le jaune était là, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, était l'emblème de la ville de Modène. Donc, c'est là que vient le célèbre logo de Ferrari qu'on connaît tous avec ce cheval cabré sur fond jaune.
Donc, c'est ce logo qu'il utilisera en parallélisme Marie. Et comme tu l'as dit, petit à petit, il décide plutôt de changer de voie et d'arrêter un peu les courses automobiles pour s'intéresser et s'investir un peu plus dans les écuries.
Voilà, donc il met un peu de côté sa carrière de pilote pour devenir, entraîneur, gérant de l'écurie, et il invente un petit peu ce métier, hein, sur le tas, puisque la course automobile est encore naissante. Et il devient patron d'abord donc de l'écurie Alfa Romeo, et il invente le métier de gestionnaire d'écurie automobile.
Il gravit petit à petit les échelons chez Alfa Romeo, et donc du coup il gagne en assurance et en expérience.
Il crée même un journal dans le sport, dans la course automobile. Et
ça, c'est ses premiers amours, hein, le journalisme, on rappelle.
Oui, voilà, c'est vrai qu'à un temps, il avait caressé l'idée d'une carrière de journaliste. Et il commence à se dire qu'il aimerait bien être indépendant, puisque là, il travaille encore pour Alfa Romeo. Et donc, en 1929, il va fonder donc, à Modène, hein, sa ville natale, la Società Anonima Scuderia Ferrari, alors qui dans un premier temps est une filiale d'Alfa Romeo.
Ben oui, parce qu'il appartient encore à Alfa Romeo.
Il appartient encore à Alfa Romeo, il travaille pour eux, mais petit à petit, il va essayer de s'en détacher pour créer sa propre société.
En tout cas, le fait qu'il crée à l'intérieur d'Alfa Romeo cette Scuderia donc Ferrari, ben rapidement, c'est le succès pour Alfa Romeo sur les courses automobiles.
Voilà, donc il perfectionne les voitures, il recrute les meilleurs pilotes, il les entraîne. Et Alfa Romeo, on va dire cette filiale Ferrari, c'est Ferrari filiale d'Alfa Romeo, devient un peu la référence de la course automobile à l'époque. Ils ont les meilleures voitures, les meilleurs pilotes. Et donc, c'est de là que vient l'image d'excellence automobile de Ferrari. Elle commence à ce moment-là, on va dire dans les années 30.
Et comme tu l'as dit, lui, ce qu'il veut quand même au fond de lui, c'est un peu être indépendant. L'indépendance arrive en 1940.
Voilà, donc en 1940, il fonde sa propre société. Alors pas sous le nom de Ferrari, puisqu'il n'a pas encore le droit, puisque le nom Ferrari est propriété encore à l'époque d'Alfa Romeo.
Ah, d'accord.
Puisque même si c'est son nom, il avait créé sa première société avec le nom Ferrari en tant que filiale d'Alfa Romeo, donc il y a une petite difficulté, il peut pas créer sa propre, utiliser son propre nom pour cette société. Et il fabrique sa première voiture donc en indépendant, donc qui est une voiture entre guillemets Ferrari, puisque créée par Enzo Ferrari, mais qui n'est pas à sa sortie, qui n'a pas la marque Ferrari.
Elle n'est pas estampillée Ferrari, la première Ferrari, quoi.
Voilà, c'est la première Ferrari, même si elle n'a pas le droit de s'appeler Ferrari. Mais bon, évidemment, la guerre arrive à ce moment-là, et la course automobile et les voitures de course, la production s'arrête totalement, les usines sont bombardées, le personnel réquisitionné, enfin, c'est pendant plusieurs années, l'activité est complètement à l'arrêt. Et il repart donc après la guerre, et là, il va pouvoir, plusieurs années sont passées, il va pouvoir effectivement réutiliser son nom de Ferrari et créer sa propre société indépendante sous le nom de Ferrari.
Et oui, donc là, il décide vraiment d'avoir une nouvelle stratégie, d'être vraiment une écurie complètement autonome.
Voilà, donc à partir de 1947, il a sa propre écurie de course automobile, donc son écurie Ferrari.
Il construit entièrement les voitures.
Il construit entièrement les voitures, mais le problème qui se pose pour lui, c'est que la course automobile, c'est très cher et ça rapporte pas forcément beaucoup. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à fabriquer des voitures de luxe, donc celles qu'on connaît aujourd'hui, les fameuses Ferrari qu'on voit des fois dans la rue. Il fabrique ses premières voitures, en fait, un petit peu par nécessité.
Ah oui, d'accord. Donc, en fait, les voitures qu'on voit, elles ont plus été créées pour pouvoir lui permettre de financer ses courses automobiles.
Voilà, c'est qu'il perdait trop d'argent avec les courses automobiles, c'était plus viable. Et donc, il se met à vendre des voitures de luxe pour gagner de l'argent, sur lesquelles il fait des grosses marges. Donc, c'est un peu comme l'industrie de la mode, hein, où il y a des défilés, alors qui sont très prestigieux, mais qui perdent beaucoup d'argent. Et avec l'image de la marque, on vend à côté des parfums, des rouges à lèvres et d'autres produits qui, eux, permettent de gagner de l'argent. Donc, on retrouve ce modèle assez classique dans l'industrie du luxe, entre une activité de prestige lourdement déficitaire et une activité, on va dire, plus commerciale, qui utilise la marque pour vendre des produits chers avec des marges importantes.
Ces voitures de luxe donc bénéficient du savoir-faire automobile des courses gagnées par Enzo Ferrari, mais il y a quand même diverses difficultés qui arrivent.
Oui, les principales difficultés, c'est les accidents. Donc, les courses automobiles, on l'a dit, à l'époque, il n'y avait pas encore les normes de sécurité actuelles. Donc, il y a plusieurs pilotes qui sont tués et des spectateurs aussi, puisque des fois, les voitures quittent la route et atterrissent dans le public. Et donc, Enzo Ferrari est un peu sous le feu des critiques parce qu'on lui reproche de privilégier la gagne à tout prix plutôt que la sécurité des pilotes et du public. Bon, ce qui ne l'empêche pas de continuer à se développer et de rester la figure emblématique de la course automobile.
Oui, c'est ce qu'il avait déjà fait freiner dans ses ambitions de devenir un pilote de course, ce qu'il avait déjà peur un peu du risque qu'étaient les courses automobiles.
Oui, c'était très risqué, donc lui avait changé ses ambitions, et il n'est pas le seul, hein. On peut penser à Soichiro Honda qui a fait un petit peu la même chose, et on va le voir dans un instant à Lamborghini aussi, qui avait caressé des projets, des rêves de pilote, et qui se sont rendu compte que c'était quand même très dangereux, et qui était plus prudent de construire les voitures que d'être soi-même pilote.
Puisque tu nous parles de Lamborghini, avant de parler de la rencontre, puisque c'est environ à cette période-là, parlons de Ferruccio Lamborghini, donc, qui est né, lui, en 1916.
Oui, donc il est né pas loin d'Enzo Ferrari, hein, à Renazzo, donc une petite bourgade à côté de Modène. Lui est le fils de viticulteur plutôt aisé, grand propriétaire terrien, et qui lui aussi, dès l'enfance, est passionné de mécanique et d'automobile, et qui donc va faire des études, une formation professionnelle dans le...
Lui va faire des études dans la mécanique, lui.
Voilà, il fait des études de mécanicien, donc la viticulture, ça ne l'intéresse pas du tout, il n'a aucune envie de reprendre les vignes familiales. Donc il fait des études de mécanique, et donc la guerre arrive à ce moment-là. Donc il travaille comme mécanicien, donc d'abord dans l'armée de l'air italienne, ensuite dans l'armée de l'air allemande. Donc
il a été réquisitionné.
Voilà, il a été réquisitionné. Et ensuite, il est fait prisonnier par les Anglais et il travaille comme mécanicien pour les Anglais à la fin de la guerre à réparer du matériel militaire anglais.
Et même après la guerre, son talent de mécanicien qu'il aura, toute l'expérience, bah, ça va lui servir.
Oui, donc après la guerre, il lance une fabrication de tracteurs, une usine de tracteurs, et en fait, il va récupérer tous les surplus militaires. Et donc, il est bon mécanicien, il connaît très bien les matériels militaires d'un peu tous les pays belligérants, puisqu'il les a tous réparés. Et donc, il utilise les moteurs, les machines, les véhicules militaires qui sont là, qui peut racheter à bas prix parce qu'ils n'ont plus d'usage, et il les transforme pour faire des tracteurs. Donc, c'est à la base un fabricant de tracteurs, Lamborghini. Donc, au début, il fabrique des tracteurs avec du surplus militaire, et puis ensuite, c'est des tracteurs, on va dire, plus perfectionnés, avec des lignes d'assemblage. Et c'est, au début, c'est un peu du bricolage, et après, on va dire qu'il industrialise la fabrication de tracteurs.
En tout cas, son savoir-faire va faire que rapidement, il va y avoir du succès avec ces tracteurs.
Oui, ça marche très bien. Donc, c'est le début de l'automatisation des campagnes. Il y a des gros besoins agricoles, et donc, son usine de tracteurs marche tout à fait bien. Donc, il devient le patron, on dirait aujourd'hui, d'une grosse PME ou d'une ETI qui dégage beaucoup de profits. Et donc, avec cet argent, il satisfait sa passion pour l'automobile. Donc, il achète les belles voitures de l'époque, donc des Jaguars et notamment des Ferrari. Donc, il adore la course automobile. Il rêve lui aussi un petit peu d'être pilote, hein, mais évidemment, il se rend compte que c'est très dangereux.
Tu l'as dit tout à l'heure.
Voilà, et donc il se dit que c'est plus prudent de fabriquer des tracteurs. Mais c'est un passionné d'automobile, et sur tout son temps libre, il conduit les voitures, il les décortique, et il en vient à trouver des défauts dans les Ferrari. Donc, bon, moi, j'y connais rien, mais enfin, lui...
Mais il trouve d'ailleurs des défauts dans toutes les voitures, mais notamment dans Ferrari.
Notamment dans Ferrari. Et il se dit, Ferrari, ça tombe bien, c'est à côté.
C'est à côté de la maison.
Voilà, lui, il est à Modène, enfin, dans les environs de Modène, et Enzo Ferrari aussi. Et donc, il se dit, je vais aller voir Enzo Ferrari, et puis je vais lui dire...
Voilà. Il va sonner à la porte
Il va sonner à la porte, rencontrer Enzo Ferrari pour lui dire, ta voiture, il y a ça et ça comme défaut, tu devrais améliorer ça et ça. Bon, Enzo Ferrari le prend, on va dire, d'assez haut, en lui disant, écoute, mon gars, toi, tu fabriques des tracteurs, moi, je fais des voitures de course, chacun son métier. Donc, il l'envoie gentiment bouler, on va dire. Et donc, Ferruccio Lamborghini est vexé comme un pou de cette fée, de cette fée envoyée balader. Et il se dit, puisque c'est comme ça, je vais, moi, fabriquer ma propre voiture de luxe comme je la veux, et je vais fabriquer mes propres Lamborghini.
Donc du coup, c'est le fait que Ferrari l'ait envoyé bouler et ne l'ait pas écouté qui a un peu créé Lamborghini.
Oui, sans ça, il aurait très certainement juste acheté la nouvelle Ferrari modifiée comme il le voulait. Mais il se dit, moi j'ai des capitaux, j'ai du savoir-faire en mécanique, même si c'est pas la voiture de course, mais j'ai aussi une passion pour les voitures de course, je les ai toutes démontées, décortiquées, et je vois très bien quelle voiture je veux faire. Donc il se lance, alors tout le monde le prend un peu pour un fou, en se disant, ce fabricant de tracteurs, pourquoi il va faire des voitures de course? Donc il crée en 63, sa société Automobili Ferruccio Lamborghini. Il débauche quelques cadres de Ferrari et de Maserati, qui est aussi dans les environs, et il produit ses premières Ferrari, donc en 64. Ses premières Lamborghini, bien sûr. On se mélange. Donc en 64, la 350 GT, qui est la première Lamborghini de l'histoire.
Mais le premier succès, ça arrive en 1966 pour ces voitures.
Oui, alors le premier succès commercial, c'est la Miura. Donc Miura, c'est un nom de taureau de corrida, parce que Lamborghini a aussi une passion pour la corrida et les taureaux, d'où le logo qui est un taureau. Et donc souvent ces voitures ont des noms de taureaux de corrida. Alors j'y connais rien, mais enfin lui est passionné, et Miura, c'est le nom d'une race de taureaux avec des particularités. Et là c'est un premier succès, donc il y en a 800 exemplaires, donc très exclusif. Il les vend à Johnny Hallyday, à Sinatra, à des émirs du pétrole, etc.
Donc c'est vraiment que les gens très riches.
Voilà, c'est vraiment un produit de niche. Et d'ailleurs, lui, fait très peu de publicité. Il se dit, de toute façon, comme j'en vends 800 exemplaires, ça sert à rien que j'achète des encarts publicitaires dans le métro ou à la télé ou n'importe où. C'est un produit de niche. Les passionnés reconnaîtront la qualité du produit et viendront l'acheter, même à un prix très élevé. Donc c'est tout de suite une stratégie ultra haut de gamme.
En 1970, il commence à lancer de nouveaux modèles.
Oui, alors 70, c'est la Countach, je ne sais pas exactement la prononciation.
Moi, je dirais Countach,
voilà.
J'ai toujours dit Countach.
Donc c'est une voiture avec les portes qui s'ouvrent vers le haut.
Oui, c'est la voiture un peu emblématique de Lamborghini.
En fait, ces portes qui s'ouvrent vers le haut, ça devient un petit peu l'emblème de Lamborghini. Et lui, alors, contrairement à Ferrari, il ne fait pas de course automobile, parce que c'est très cher de faire de la course automobile, comme on l'a vu. Donc il se contente, entre guillemets, de faire des voitures de luxe très haut de gamme et en toute petite série.
Donc lui, il ne veut pas aller dans les courses automobiles. Ce qu'il veut, c'est vendre des voitures de luxe. Mais rapidement, il y a quand même des difficultés qui arrivent.
Alors, il y a des difficultés parce que son usine de tracteurs, c'est pas qu'elle périclite, mais enfin, elle a plusieurs grosses commandes qui tombent à l'eau. Il y a le choc pétrolier, début des années 70. Donc, l'industrie automobile, évidemment, prend un coup. Et donc, La division tracteur, on va dire, de l'entreprise qui finançait un peu le reste, c'est plus possible de s'appuyer dessus. Et donc, les difficultés financières s'accumulent. C'est aussi un marché très concurrentiel. Il y a plusieurs constructeurs sur ce marché. Et donc, il va assez vite vendre son entreprise dès 74 et partir à la retraite.
Oui, donc en fait, les voitures marchaient bien, mais ça coûtait vraiment trop d'argent de les produire. Et donc, du coup, ils vendent.
Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde voulait acheter une Lamborghini, mais les coûts de production étaient tels que ça devenait très difficile de dégager une marge dessus. Et il sentait qu'il avait plus... son entreprise était trop petite, il n'avait plus les épaules pour faire face à la concurrence. Il devait être aussi un petit peu fatigué, peut-être en avoir marre. Et donc, il décide de vendre et de partir à la retraite.
Donc du coup, l'entreprise, elle continua. Lui, il décède en 1993.
Oui, donc l'entreprise continue avec des hauts et des bas. Il y a eu plusieurs rachats par tout un tas. On serait un peu long à faire la liste, mais sur ce créneau-là, ça, c'est assez difficile en fait de maintenir une activité profitable. Donc Lamborghini est passé de propriétaire en propriétaire, a frôlé plusieurs fois la faillite. Mais bon, la marque existe toujours et elle est toujours symbole de l'excellence et du luxe automobile.
Donc en parallèle, Ferrari, lui, aussi, il a connu des difficultés avec comme les concurrents sont arrivés, il a fallu qu'il cède rapidement la moitié de sa société aussi.
Oui, donc lui aussi, il avait donc sa division course automobile qui perdait de l'argent et qui était financée par la division voitures de luxe, qui elle aussi subit le coup du choc pétrolier, en difficulté avec la concurrence sur ce marché. Et donc il va vendre la moitié de sa société à Fiat dans un premier temps pour s'adosser à un gros groupe automobile, bénéficier d'économies d'échelle, du savoir-faire de Fiat. Mais bon, lui, Enzo Ferrari, sa passion, c'est vraiment la course automobile. La division voiture ne l'intéresse que dans la mesure où elle permet de dégager de l'argent.
Et donc il va continuer à piloter.
À piloter son écurie, en fait. Voilà, presque jusqu'à la fin de sa vie. Donc, sans jamais être présent sur les courses, hein, c'est un peu la légende d'Enzo Ferrari, parce qu'il était tellement stressé qu'il ne pouvait pas être sur la course. Donc, c'était un peu. On sait qu'il est là, on sait qu'il regarde la course, même s'il n'est pas là. Donc, ça participe de la légende. Et voilà, l'écurie Ferrari restera et est toujours, on va dire, l'écurie emblématique de la course automobile.
Enzo Ferrari décède, lui, en 1988.
Voilà, il décède, suite à quoi son entreprise est reprise par son fils, qui va revendre l'intégralité à Fiat. Donc, aujourd'hui, Ferrari, c'est tout simplement une filiale de Fiat.
Les deux marques continuent de briller, tu l'as dit, différemment aujourd'hui, et elles résonnent toujours comme des valeurs d'excellence en matière d'automobile. Mais ce que nous allons retenir, nous, Sylvain, c'est que c'est l'arrogance d'Enzo Ferrari qui créa son concurrent Lamborghini et qui concentra un peu la construction des voitures de luxe dans une toute petite région italienne pendant quelques temps. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je rappelle que cette histoire est tirée du troisième tome de ta série de livres « Entrepreneurs de légende » que je vous conseille à tous. Elle est éditée chez Henrik B. Vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur toutes les bonnes plateformes audio et même les moins bonnes et sur cdipodcast.com. Évidemment, je vous invite à partager, à faire connaître à vos amis. Ne vous retenez pas. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.